France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Ça ne vous aura pas échappé, l'Orchestre National fête cette année ses 90 ans, marqué par plusieurs concerts anniversaires sous la baguette de Christiane Macellaru, son directeur musical, mais aussi une exposition, et puis cette série d'au cœur de l'orchestre. Nous nous étions arrêtés aux années 60. Les musiciens historiques sont toujours présents depuis les années 30, ce qui n'empêche pas de voir arriver quelques têtes nouvelles, comme Guy Danguin, engagé en 1960. Comme clarinette solo pour succéder à Maurice Cliquenois. Il est reconnaissable à sa moustache, mais aussi à sa musicalité exceptionnelle. Né en 1935, Guy Danguin, donc il n'a pas 30 ans quand il est nommé. Originaire du Pas-de-Calais, comme beaucoup d'instrumentistes avant qui ont fait leur apprentissage dans les harmonies municipales, une figure de proue de l'école française de clarinette, comme on l'entend ici dans la Rhapsodie de Claude Debussy, qu'il a enregistré avec un chef dont je vous reparle. Je parlerai tout de suite après, Jean Martinon. Rhapsodie pour clarinette et orchestre de Debussy, joué sur la clarinette Selmer de Guy Danguin, formidable clarinette solo de l'Orchestre National pendant une trentaine d'années, ici accompagné par celui qui a présidé aux destinées de l'orchestre entre la fin des années 60 et le début des années 70, Jean Martinon. Je vous avais fait une émission complète sur ce chef français pas toujours reconnu à sa juste valeur. Je vous rappelle que le titre de directeur musical à l'époque n'existe pas vraiment à l'Orchestre National, depuis le départ du fondateur Engelbrecht. Il y a un premier chef, ça a été Emmanuel Rosenthal ou Roger Desormières, mais le vrai patron, c'est le directeur des services musicaux de la radio, puisque je vous rappelle que c'est un orchestre de radio. Ça a été longtemps Henri Barrault. Maurice Leroux a eu le titre de directeur musical, car lui pratique la direction d'orchestre, mais sans être un maestro réputé. Bref, si l'orchestre veut monter en puissance, on sent qu'il faut quelqu'un à demeure pour le faire travailler régulièrement. En 1968, Martinon a 58 ans, Il est libre, car il vient de quitter Chicago, où il avait succédé à Fritz Reiner, mais il s'est mal adapté à l'atmosphère de rapport de force qui règne dans les orchestres américains. C'est un homme au caractère affable et modeste. Le poste à l'Orchestre National arrive donc au moment idéal, d'autant qu'il connaît l'orchestre depuis 1951. En plus de sa compétence, il a un avantage important, sa curiosité en matière de répertoire. Par exemple, lorsqu'il fait découvrir au public parisien Shostakovich avec David Oistrakh qui vient en 1971 jouer le deuxième concerto du compositeur, écrit pour lui et qu'il a créé 4 ans plus tôt. grand David Oistrakh dans le deuxième concerto que Shostakovich a composé pour lui. C'était l'Adagio et c'est Jean Martinon qui dirigeait. Martinon s'intéresse à bien d'autres compositeurs encore rares à l'époque, comme Gustav Mahler, au point d'avoir été le premier Français à recevoir la médaille Mahler à Vienne. Il existe un enregistrement de la troisième symphonie en concert en 1973 que je vous ai déjà passé dans Au cœur de l'orchestre et qui est vraiment très intéressant. Ce n'était que la deuxième fois que l'orchestre jouait cette œuvre. On sent que le national n'est pas familier de cette musique, mais Martinon s'y révèle un excellent guide. Parmi les moments marquants du mandat de Martinon, il y a les tournées, beaucoup plus fréquentes alors. Il y aura les États-Unis, le Japon, la Grèce, y compris sous la dictature des colonels. Il y aura Persépolis, où les musiciens affolent le service de sécurité du Shah d'Iran en se jetant dans la piscine qui devait être inaugurée par l'impératrice Farhadiba. Émotion en revanche en Pologne, quand Martinon change le bis prévu pour jouer l'aria de la suite en ré de Bach en hommage aux victimes du ghetto de Varsovie. Au printemps 1972, Martinon et l'Orchestre National parcourent 40 000 kilomètres pour une tournée en Amérique latine inoubliable. Il y a une belle photo de l'époque qui montre Martinon posant un ballon de football à la main avec sa femme devant l'équipe du National qui joue alors contre les musiciens locaux. Alors, match nul à Rio, défaite cuisante en Uruguay. Quant à l'Argentine, le National joue contre l'équipe du Teatro Colón, que l'on soupçonne d'avoir fait entrer des joueurs professionnels. Handicap compensé par l'arbitrage du corsolo André Fournier, qui n'est pas tout à fait impartial. Thank you. parlé de l'amour de Jean Martinon pour la musique moderne, mais il dirigeait aussi le grand répertoire, comme cette cinquième de Beethoven à Besançon, le 4 septembre 1970, avec ce son très clair, propre aux orchestres français de l'époque. Martinon ne reste pas très longtemps, puisqu'il quitte ses fonctions en 1973, au bout de 5 ans seulement, un peu frustré et blessé, même si ses rapports avec les musiciens ont toujours été bons. La radio est une chose magnifique, mais peut-être aussi une machine lourde. Et puis, vous savez ce que c'est, on n'est jamais content. Quand on a un chef humble et courtois, on trouve qu'il est mou. Quand on a un homme à poigne, on trouve qu'il est tyrannique. Quand on a une vedette, on trouve qu'il fait sa star. Et quand on a un professionnel qui fait passer la musique avant son ego, on trouve qu'il manque de charisme. Il n'en reste pas moins que Martinon a été important dans l'histoire de l'Orchestre National, ne serait-ce que grâce à sa connaissance intime de la musique française, qui est dans l'ADN de l'orchestre. On lui doit par exemple la plus homogène des intégrales de Debussy, mais là, c'est dans un autre cheval de bataille de l'orchestre que je vous le propose, Bacchus et Ariane de Roussel.
Thank you.
un des tubes de l'Orchestre National, la Bacchanale de Bacchus et Ariane d'Albert Roussel, enregistré en 1969 par Jean Martinon. Ce début des années 70, c'est aussi le moment où le National diversifie ses activités en direction des festivals. Musique contemporaine à Royan, mais aussi l'opéra, c'est la renaissance des Corégies d'Orange. Sous la direction artistique d'une grande voix de France Musique, Jacques Bourgeois, qui réussit le 7 juillet 1973 un gros coup, monter Tristan et Isolde de Wagner avec une distribution digne de Bayreuth, Birgit Nilsson et John Vickers et Karl Böhm à la direction. En fait, il a fait croire à chacun que l'autre était d'accord, le coup classique. Et l'orchestre, eh bien, c'est le National, avec qui le docteur Böhm élargit encore son répertoire d'insultes contre les musiciens français, mais le résultat final est inoubliable, malgré le Mistral qui souffle très fort ce soir-là.
Thank you.
Théâtre antique d'Orange, 7 juillet 1973, un moment inoubliable. Que cette mort d'Isolde par Birgit Nilsson, Carl Böhm et l'Orchestre National, dont nous verrons demain qu'il est un tournant de son histoire. L'émission est bien sûr réalisée par Marie Groux et cette semaine c'est une autre Marie, le peintre, qui se charge de la console. Très bon début de semaine à tous, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.